Vivre FM,
podcast. Recherche et partage, jusqu'à midi sur Vivre FM, Blandine Lacour.
Bonjour, bienvenue à l'écoute de cette nouvelle émission de Recherche et Partage, une émission proposée en partenariat avec la FIRA, Fondation Internationale de Recherche Appliquée sur le Handicap. Une recherche qui s'applique à trouver solutions concrètes et directes pour améliorer la qualité de vie des personnes handicapées en France et à l'international. Et puis une recherche surtout qui diffuse ses trouvailles le plus largement possible, et notamment sur l'antenne de Vivre FM. Aujourd'hui, nous nous intéresserons dans un premier temps aux personnes porteuses de trisomie 21 et déficientes intellectuelles, des personnes qui éprouvent de grandes difficultés pour formuler leur propre choix de vie et se projeter dans l'avenir. C'est ma vie, je la choisis. C'est le titre d'un projet de recherche soutenu par la FIRA dès 2012. Et vous allez découvrir de quoi il s'agit dans un instant avec nos invités. Et puis en dernière partie d'émission, nous quitterons la déficience intellectuelle pour explorer les besoins de recherche appliqués pour les personnes déficientes visuelles cette fois. Nous ferons aussi un point sur l'emploi des personnes handicapées. Un peu de trisomie, un peu de cécité, beaucoup de recherche et des invités à découvrir tout de suite sur Vivre FM. Qu'est-ce que l'autodétermination quand on est porteur de trisomie 21 ou déficient intellectuel? Comment concevoir des outils d'aide disponibles pour que ces personnes mettent en place des projets de vie? Pour en parler à nos côtés, deux intervenants. Merci à Jean-Paul Champeau, directeur de Trisomie 21 France, et à Bernard Nkawa, chercheur à l'Université de Bordeaux et à l'INRIA, d'être avec nous en plateau. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour. Dans le cadre de son soutien à des projets de recherche appliqués, la FIRA a décidé en 2012, hein, je crois, de soutenir C'est ma vie, je la choisis, projet que vous avez mis en place. Alors qui veut commencer pour nous en parler? Peut-être Jean-Paul, pour nous expliquer un peu en quoi cela consiste, puisque si on veut résumer, il s'agit de donner des choix de vie accessibles aux personnes porteuses de trisomie et déficientes intellectuelles, mais vous allez peut-être rentrer un peu plus dans les détails.
Un défaut de leur donner les choix, c'est d'abord leur donner la possibilité de formuler leur choix. Trisomie, je crois que le projet il prend ses racines dans la création même de notre fédération. Donc notre fédération est une fédération qui s'est fondée sur le pari de l'éducabilité de la personne trisomique il y a maintenant une quarantaine d'années. À l'époque, c'était pas si évident. Première chose. Deuxièmement, c'est une fédération et des associations, 63 associations départementales qui présente toute la particularité de réunir des parents, des professionnels et maintenant des personnes avec trisomie qui s'expriment au sein même des instances associatives, c'est-à-dire les conseils d'administration, les assemblées générales, etc. Les personnes avec trisomie sont adhérentes de l'association et à ce titre-là ont aussi à formuler des choix. Ça, c'est l'inscription dans l'histoire de notre association. Et deuxième point, c'est... effectivement, des personnes qui, après avoir été éduquées, effectivement, après avoir reçu une éducation, ont envie de mettre en œuvre ce qu'elles ont appris et ont envie de faire leurs propres choix. Et leurs propres choix ne sont pas forcément ceux de leurs parents et ceux des professionnels. Donc, on a travaillé depuis maintenant 6-7 ans à la mise en place d'outils d'aide à la formulation du projet de vie. Pour que les personnes puissent exprimer leur propre choix et que ça soit pas le choix de quelqu'un qui les leur dicterait. Et dans ce cadre-là, on a travaillé depuis 6 ans, donc je disais, avec l'Université de Mons en Belgique, à la création d'un outil qui est un outil papier qui a un gros intérêt, c'est d'exister, qui a aussi des limites, puisque dans la mesure où c'est un outil papier, il s'adresse prioritairement à des personnes qui sont lectrices, et les personnes qui ne sont pas lectrices ont aussi le droit de formuler des projets de leur projet. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est adressé à l'Université de Bordeaux et à l'INRIA, qui travaille depuis longtemps sur l'utilisation de la réalité virtuelle et qui est en capacité aussi de travailler sur les processus de décision. Voilà, donc cette partenariat avec l'Université de Bordeaux préexistait dans le cadre d'autres outils numériques et il nous a semblé tout naturel de nous adresser à eux et de les mettre en relation avec l'Université de Mons.
Vous, Bernard, donc chercheur à l'Université de Bordeaux, vous travailliez déjà sur des applications concernant le handicap ou quand Trisomie 21 France vous a contacté, c'était quelque chose de plutôt nouveau?
Alors du coup, moi, mon activité de recherche portait déjà sur le handicap. Alors pas nécessairement sur la trisomie 21, mais j'avais déjà une activité de recherche avec deux versants. Un versant qui qui concerne aussi le projet en cours, hein, qui est celui d'essayer de mieux comprendre les difficultés cognitives ou les difficultés de la vie quotidienne rencontrées dans certaines situations. Alors, moi, je travaillais avant sur d'autres situations, hein, que ce soit les personnes traumatisées crâniennes ou d'autres pathologies. Donc, j'avais déjà cette approche de mieux comprendre les difficultés cognitives, ce qui est une chose compliquée en réalité. Hein. Mieux comprendre les difficultés cognitives, c'est pas si compliqué, mais les difficultés de la vie quotidienne, c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut savoir qu'on a des outils, la neuropsychologie a des outils pour mieux comprendre les troubles de la mémoire, les troubles, mais c'est des outils papier-crayon, on fait passer des tests avec des mots, des images, et ça n'a rien à voir avec ce que les gens vivent dans la vie quotidienne. Donc, un des enjeux, c'est d'essayer d'avoir des outils qui permettent d'appréhender les difficultés réelles, les difficultés quotidiennes. Voilà, ça, c'est une chose compliquée. Donc, c'est pour ça qu'on avait déjà développé. On n'est pas les seuls, hein, mais il y a tout un courant qui utilise la technologie pour évaluer. Par exemple, avec de la réalité virtuelle, on peut vous placer dans un supermarché virtuel et regarder si vous êtes capable encore de faire vos courses, par exemple. Hein. Donc, ce qui est une approche... qui est beaucoup plus large et beaucoup plus complexe que les simples tests papier-crayon. Voilà, donc j'avais déjà cette activité-là. Et cette activité-là est un préalable ensuite pour essayer de développer des outils numériques qui aident les personnes. Une fois qu'on a bien compris leurs difficultés, et ben on peut essayer d'avoir une approche qui consiste à concevoir des outils numériques adaptés à leurs difficultés de la vie quotidienne et qui puissent les aider. Voilà. Et donc cette approche-là globale, on l'avait pour d'autres situations et c'est un peu ce type d'approche qu'on a développé pour ce projet-là en question.
Donc vous étiez déjà dans de la recherche appliquée, quelque chose de très concret. Est-ce que vous travailliez du coup déjà directement avec les personnes handicapées elles-mêmes qui formulaient peut-être des choix
Bien sûr, oui. Ben, lorsqu'on travaillait avec des personnes traumatisées crâniennes ou lorsqu'on travaillait avec des personnes qui ont des maladies d'Alzheimer, on avait déjà cette approche qui consistait à avoir une observation extrêmement poussée des difficultés avec des outils qui sont les outils classiques ou l'observation ou alors des outils de réalité virtuelle ou autres ou des entretiens. Mais l'enjeu au départ, c'est de bien comprendre les difficultés. Ça, c'est un enjeu majeur et c'est un enjeu sur lequel on est loin d'avoir encore tous les moyens de pouvoir arriver au bout de cette affaire.
Et Jean-Paul, quand vous êtes lancé aussi dans ce projet-là, ça venait de ce même constat qui est que souvent on a des difficultés à comprendre quelles sont les difficultés des personnes handicapées, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs nécessités. Et c'est ça, c'est pour ça que vous avez entamé il y a 6 ans le projet que vous avez fait avec l'Université de Belgique. Parce que le constat, c'était quoi? C'était, il n'y a rien, on ne leur donne pas assez la parole, on ne les laisse pas formuler eux-mêmes effectivement leurs choix. Rien n'était effectué dans ce domaine-là pour les personnes porteuse de trisomie 21, en tout cas.
On ne peut pas dire que rien n'était effectué. Je pense qu'on demandait quand même l'avis des personnes. En revanche, rien n'était formalisé. Et au-delà, la loi de 2005, par exemple, prévoit que la loi de 2005 pour la participation, la citoyenneté des personnes handicapées prévoit que le projet de vie, c'est à partir du projet de vie qu'on évalue les besoins de la personne. Sauf que pour évaluer les besoins de la personne, il faut que la personne soit en capacité de formuler ce projet. Donc c'est aussi pour cette raison-là qu'on a mis en œuvre ce chantier. Mais plus que le fait de leur demander leur avis, c'est la possibilité qu'ils puissent l'émettre, mais qu'ils puissent aussi ne rien dire. Enfin, c'est leur choix, effectivement, de ne rien dire. Mais s'ils ont envie de dire quelque chose, il faut qu'ils puissent le dire et qu'ils puissent formuler ces choix. Et au-delà de l'intention, il faut donner des outils. Quand on a l'intention, il faut donner des outils, sinon l'intention reste d'être morte.
Voilà. Vous, Bernard Nkawa, ça vous a tout de suite, entre guillemets, enthousiasmé, le projet porté par Trisomie 21 France?
Justement, c'est un projet extrêmement concret, parce que ce que disait Jean-Paul, c'est qu'en fait, l'aventure, elle commence avec la loi de 2005, surtout. Et cette loi qui pose le principe, effectivement, du droit à la compensation, c'est une avancée majeure, effectivement, et c'est le fait que toute personne handicapée a le droit, évidemment, de demander une compensation de son handicap. Mais alors c'est un progrès considérable, je pense. Mais en fait, on essaie de prendre en compte dans cette demande ses attentes, ses choix, ses propres décisions, ses envies. Et ça passe à travers l'expression d'un projet de vie que la personne doit décliner, exprimer, écrire même. Hein. Et c'est sur la base de ce projet de vie que va se mettre en place tout le processus de compensation, d'aide financière, humaine, etc., etc. Donc le problème, il est extrêmement concret, c'est des personnes ont quand même des difficultés. Enfin, c'est difficile pour n'importe qui d'exprimer un projet de vie. Si on vous demande à vous, n'importe qui, c'est compliqué. Et donc, c'est évidemment compliqué aussi pour ces personnes de là. Et donc, l'idée, c'est de les aider à l'exprimer pour qu'elles puissent au mieux décrire leurs besoins, leurs difficultés, leurs envies, et qu'ensuite l'institution puisse les aider le mieux possible et de façon individuelle. Donc, c'est un problème extrêmement concret.
Donc, voilà. Donc, dans un premier temps, ça a été vraiment d'abord peut-être un travail de Trisomie 21 France, d'essayer, on va dire, dans une première étape, d'évaluer ses besoins, et puis dans un deuxième temps, de renvoyer ça à l'Université de Bordeaux. Comment ça s'est passé concrètement, le démarrage du projet ?
On avait travaillé avec l'Université de Mons sur un outil papier. Cet outil papier, on savait qu'il avait des limites, hein, et on savait qu'il était intéressant, mais qu'il avait des limites. Les limites, elles étaient l'accès au plus grand nombre, hein, notamment, et au plus haut non-lecteur en particulier. Donc, ce que l'on a envie de faire, parce qu'on ne l'a pas forcément dit, mais ce qu'on a envie de faire avec cet outil numérique, c'est d'abord sa mise en ligne, donc sa mise à disposition de tout le monde, hein, que la personne soit en situation de handicap ou non, d'ailleurs, puisqu'il sera libre, on n'évaluera pas le handicap avant de donner accès au site Internet. Donc, une personne pourra formuler son projet, quelle que soit sa situation, qu'il soit handicapé ou non. Donc ça, c'est la première chose, c'est une aide pour tout le monde, et la mettre à disposition de toute personne qui le souhaite, un outil d'aide à la décision. On est tous placés dans des situations de décision à un certain moment, et on a parfois du mal à prendre nos décisions. On ne sait pas forcément d'ailleurs ce qu'est choisir. Bernard l'évoquait tout à l'heure pour des personnes traumatisées crâniennes, mais c'est valable pour d'autres personnes aussi. Donc on met un outil d'aide, voilà. Et les gens s'en servent ou s'en servent pas, mais en tout cas, ils auront un outil qui leur permette de décider qu'ils soient en situation de handicap ou non, qu'ils soient lecteurs ou non lecteurs.
Quand vous dites ils auront, c'est-à-dire on en est où exactement du développement de ces outils et de l'avancée du projet ?
Bernard. Alors du coup, nous on s'est appuyé sur un outil papier-crayon qui existe, hein, c'est un formulaire qui a été fait. L'idée comprend plusieurs rubriques. En fait, l'idée c'est d'essayer dans un premier temps de faire travailler la personne sur son passé, par exemple, et pour essayer, enfin, tout l'outil converge vers le fait d'essayer d'élaborer des projets, un projet de vie. Donc un projet de vie, ça concerne la vie familiale, les loisirs, le travail. Donc voilà, tout l'outil vise à cet objectif-là. Donc il y a plusieurs parties dans l'outil, hein, travailler déjà sur son passé pour mieux s'inscrire dans l'avenir. Il y a des parties qui permettent de travailler aussi sur les valeurs importantes. Quelles sont les valeurs importantes pour la personne ? Parce que ça aide aussi à déterminer ce qu'on a envie de faire dans la vie. Et puis ensuite, des parties qui, tout très concrètement, essaient de présenter un certain nombre d'activités de loisirs. Et la personne peut voir comme ça ses activités décrites et peut dire si cette activité l'intéresse ou ne l'intéresse pas et si elle aimerait la faire. Et pareil pour des activités professionnelles, pareil pour des activités familiales. Voilà, et c'est juste la version numérique, du coup, devient ludique. Hein. On peut regarder, on peut se demander ce que c'est que le métier de menuisier et puis avoir un petit film qui montre ce que c'est. Voilà. Ça permet de prendre connaissance des possibles dans des sphères larges, hein, familiales, professionnelles, et ensuite de regarder si ça nous intéresse. Et puis, voilà, il y a d'autres parties qui permettent ensuite, en termes de serious game, puisque c'est à la mode, de voir quelles étapes on peut mettre en œuvre pour atteindre un projet quand on l'a choisi, etc. Voilà, c'est un outil d'aide.
On va se retrouver dans un instant pour continuer à parler de l'élaboration de ce projet de vie des personnes porteuses de trisomie 21. Ça va tenir les auditeurs en haleine et on vous retrouve tout de suite après un peu de musique. De retour dans Recherche et Partage avec nos invités Jean-Paul Champeau, directeur de Trisomie 21 France, et Bernard Nkawa, chercheur à l'Université de Bordeaux et à l'INRIA. J'ai pas dit de bêtises. On se retrouve donc à propos de ce projet « C'est ma vie, je la choisis », ce projet soutenu par la FIRA. On était en train de parler avec vous, Bernard, de l'étape dans laquelle on était de ce projet. On est en train de développer les outils. Donc là, c'est des choses à la fois très techniques, mais toujours en collaboration avec les personnes avec trisomie, et notamment via l'association. Comment se passe du coup la collaboration ? Vous développez des outils et vous les testez via les personnes avec trisomie ?
Alors, du coup, la partie technique, c'est la partie qui est compliquée, mais finalement, ce qui est vraiment important, c'est d'arriver à faire des outils adaptés aux utilisateurs. Donc, c'est pour ça que toute la phase amont consiste à mieux comprendre les utilisateurs, c'est une phase extrêmement importante. Et donc, une fois que cette phase est passée, on peut commencer à faire des prototypes. Hein, c'est des maquettes. Ces maquettes, on essaie de les faire en prenant au mieux en compte toutes les contraintes de fonctionnement, tout ce qu'on a pu analyser dans les phases d'avant. Et ces maquettes, ensuite, vont être soumises à des utilisateurs. Donc, elles vont être présentées à des professionnels, hein, d'abord, des professionnels de l'association, qui nous diront leur avis, et ensuite à des usagers, des personnes avec trisomie, et on prendra en compte tout ce qu'il faut prendre en compte pour modifier l'outil et puis le réajuster. Et voilà, par itération successive, travail de développement et contact avec les professionnels et les usagers, on arrivera à un produit fini, on l'espère, d'ici quelques mois, qui réponde aux attentes.
D'ici quelques mois, oui, le projet est démarré, on va dire, début 2014, donc est prévu pour durer 2 ans. Donc, on attend avec impatience, en 2016, de pouvoir utiliser cet outil. Jean-Paul Champeau, comment se passe cette collaboration avec l'université à ce stade-là de développement? Est-ce que, du coup, vous avez énormément... Alors, ça n'a pas commencé, les retours, du coup. Pour l'instant, on est vraiment en phase de développement avant les premiers tests avec les personnes avec trisomie.
Bon, tout d'abord, je voulais souligner, bon, je pour répondre à votre question, la collaboration se passe bien, voilà. Donc, c'est une autre question. on a travaillé avec ce principe-là, avec l'Université de Mons, pour développer le premier outil, c'est-à-dire c'est un outil qui a été testé par les personnes, par leurs aidants. C'est déjà un travail qui avait été fait avec l'Université de Bordeaux. On était aussi dans ce processus. On était convenu de travailler de la même manière, bien évidemment. Enfin, on en a discuté parce que ça paraissait tout à fait évident. Donc les familles aussi sont associées, bien sûr, à ce travail. Et les personnes ont déjà été associées sur la phase étude des processus de décision, où ils ont pu travailler sur la réalité virtuelle qu'évoquait Bernard tout à l'heure, et sur des processus. Les chercheurs de l'université ont pu travailler avec eux, donc sur l'étude de leur processus de décision. Donc c'est un travail qui est en cours, et on ne concevrait pas, nous, de le mener différemment, faire une recherche en chambre, comme on dit, et puis la transposer dans la réalité. Pour le coup, on serait vraiment dans le virtuel.
Voilà. Mais qu'en pensent justement les personnes de l'association, les personnes avec trisomie? Est-ce qu'elles se rendent compte, elles, de ces outils qu'on est en train de développer? Est-ce qu'elles ont déjà, au cours du projet, j'allais dire, envie de rajouter des choses, de modifier des choses? Est-ce qu'elles sont vraiment extrêmement, on va dire, proactives dans tout ce cheminement qui va durer 2 ans?
Ce travail n'est pas indépendant des autres activités de l'association. On travaille, je vous le disais en préambule, on a travaillé sur l'ouverture de nos instances aux personnes avec trisomie 21. On le fait pas comme ça. Les personnes avec trisomie 21, on leur propose des formations, j'allais dire on les forme, non, on leur propose des formations sur l'accès à la prise de parole, sur l'expression. Donc on travaille sur l'accessibilité, on travaille aussi sur l'accessibilité de nos systèmes d'information, et notamment pour les usagers des services, qu'ils aient accès à leur dossier et que le dossier soit accessible et qu'ils puissent comprendre ce qui est dans leur dossier. Donc c'est un travail qui est un travail global, c'est pas uniquement un travail sur le projet de vie qui est arrivé comme ça, parce qu'il y avait le terme projet de vie dans la loi. C'est un travail d'accessibilité de l'ensemble des activités associatives.
Mais là, est-ce qu'elles en attendent particulièrement de ce projet spécifique, C'est ma vie, je la choisis, qu'elles se rendent compte que ces outils numériques peuvent potentiellement leur donner réellement de nouvelles chances? Bernard.
Juste pour préciser, du coup, nous, effectivement, on a fait des entretiens avec les familles. Hein. On a fait des entretiens avec comme support l'outil papier. Et on a demandé, bien évidemment, quel serait l'intérêt d'avoir une version numérique. Alors, bon, vous savez, les technologies d'assistance numérique se développent dans tous les sens. Hein. Je crois qu'il y a maintenant, on en voit bien l'intérêt. Hein. Il y a de plus en plus de résultats qui jusque-là étaient un peu préliminaires, mais maintenant commencent à être vraiment établis sur l'efficacité de ce type d'outils. Alors, pourquoi? D'abord, parce que, vous le savez bien, hein, ce sont des outils type iPad ou autres, hein, qui peuvent être extrêmement ludiques, conviviaux, qui permettent du lien, qui permettent du lien social avec la famille, qui permettent aussi d'avoir différents types de supports, que ce soit des images, des vidéos, qui permettent différents types d'interactions, tactiles, la souris, le clavier, n'importe quoi. Donc ce sont des outils qui sont de plus en plus utilisés pour l'assistance numérique. Alors on a déjà eu l'occasion, d'ailleurs pour d'autres études, d'évaluer l'intérêt que peuvent avoir les personnes avec trisomie pour ce type d'outils, et on avait déjà constaté qu'ils sont extrêmement preneurs, hein, pour la plupart. C'est normal, ils sont nés avec, même les jeunes adultes, ils ont l'habitude de les utiliser. Et donc on a recueilli en tout cas beaucoup d'adhésions positives sur un projet d'avoir une version numérique d'un outil papier-crayon qui peut-être est important et intéressant évidemment. Hein.
Mais là, ça démultiplie les possibilités,
voilà,
on va dire.
Et surtout l'utilisation tout seul aussi, parce que c'est un outil qui permettra, avec des vidéos d'explication, enfin, d'être utilisé par la personne, avec son entourage s'il veut, mais aussi lui-même.
Est-ce qu'il y avait des freins ? Est-ce qu'on pensait que, justement, par rapport à cette utilisation des nouvelles technologies, vous me dites qu'ils en sont friands finalement, est-ce qu'il y avait
pour
quand même des freins, des craintes de se dire « Ah, peut-être que là, on va un peu loin que... »
Non, il n'y avait pas de crainte quant à l'utilisation. La seule chose, c'est ce que je vous expliquais, c'est d'essayer de bien cerner le type de présentation d'outils, le type d'information, le type de... Voilà, ce n'était pas des craintes. C'était c'est simplement un travail préalable pour bien cerner les modalités d'interaction qui sont les plus adaptées pour que le système soit souple. C'est-à-dire que la personne qui a envie d'utiliser un écran tactile puisse l'utiliser, celle qui parle très bien puisse s'exprimer avec l'outil, celle qui parle moins bien puisse communiquer avec des pictos, enfin vous voyez, ou des images, enfin voilà, c'est juste le rendre suffisamment souple pour répondre à l'hétérogénéité des profils en fait, voilà, c'était pas une crainte, c'était juste des prérequis.
Jean-Paul.
Pour répondre à votre question, est-ce qu'ils ont envie de cet outil ? J'en sais rien. Je ne sais pas du tout. En revanche, donc, ce que je sais, c'est qu'ils ont envie de décider. Ça, oui. Et l'outil, je pense qu'ils en auront envie. Il sera valide, effectivement, quand ils s'en serviront. C'est des personnes dont on dit qu'elles ont des difficultés à conceptualiser. Donc, il faut qu'on concrétise et que l'outil soit entre leurs mains et qu'on puisse adapter. C'est pour ça aussi qu'on a choisi cette démarche itérative qu'évoquait Bernard de mise à l'épreuve de l'outil. Qu'il l'ait, qu'il s'en serve et qu'il nous fasse un retour dessus.
C'est comme ça qu'on évaluera la pertinence finale de l'outil, c'est si les personnes s'en servent et qu'elles se l'approprient finalement.
Oui, et puis s'ils nous demandent de le modifier, oui. Je pense que c'est effectivement un des éléments d'évaluation, bien sûr.
Alors il y a deux choses, hein. Il y a l'aspect utilisabilité de l'outil, est-ce qu'ils vont s'en servir, est-ce qu'il va être utile, et puis il y a une deuxième chose qui est aussi très importante, c'est que ce genre d'outil rentre dans ce qu'on appelle les technologies de soutien à l'autodétermination, puisque maintenant c'est le terme consacré, donc soutien au fait de prendre ses propres décisions. Et on sait maintenant par des études très sérieuses, hein, que améliorer l'autodétermination des personnes a des conséquences extrêmement positives sur la vie future, hein, positives en termes d'insertion professionnelle, en termes de vie familiale, de qualité de vie, puisque vous en parliez. Donc l'enjeu, c'est aussi d'améliorer cette autodétermination, hein, c'est ça l'enjeu quand même, l'un des enjeux majeurs. Donc il y aura quand même une phase d'évaluation qui sera une étude longitudinale, hein, qui permettra de voir si l'utilisation de ce type d'outils, in fine, quelques temps après, va permettre aux personnes d'améliorer la qualité de vie, l'insertion professionnelle, la vie familiale et toutes ces sphères de la vie. C'est ça, quand même, l'enjeu. L'un des enjeux majeurs, c'est quand même aussi ça.
Hein ? Du coup, on le disait tout à l'heure, début 2016, possiblement, disponibilité de cet outil. Alors, disponibilité où ? Pour qui ? Pour tout le monde, j'imagine, je le souhaite. Ce sera disponible où, concrètement, cet outil ?
Notre engagement, c'est la mise en ligne de cet outil, donc à partir de notre site, trisomie21-france.org.
Voilà. Donc, début 2016, voilà. On attend ça. Et après, donc, combien vous aurez... À nouveau, enfin, ce partenariat va du coup continuer pour, Bernard Nkawa le disait, valider dans la durée est-ce que cet outil finalement marche et apporte quelque chose concrètement à la vie des personnes avec trisomie ?
On a des les coopérations avec l'université de Bordeaux et les laboratoires de Bernard Nkawa continuent, puisque de toute manière on a des projets en cours, hein, d'autres projets que celui-ci. Et il est évident, comme on l'a fait avec l'université de Mons, si l'outil demande une adaptation, mais on réassociera et on remettra les gens autour de la table pour l'adapter, bien évidemment. Et on attend les retours après 2016.
Ouais. Est-ce que sur ce projet justement et sur les outils que vous développez spécifiquement pour les personnes avec trisomie, il y a des différences notoires avec les travaux que vous faisiez avant, des choses qu'on a adaptées spécifiquement pour la trisomie ?
Alors pour l'instant, pour ce type d'outils d'aide à l'élaboration d'un projet de vie, on n'avait pas eu l'occasion de le développer pour d'autres situations. D'accord. Cela dit, après réflexion, c'est extrêmement important comme outil à développer pour plein d'autres situations. On peut en parler des personnes avec traumatisme crânien, la réinsertion, les nouveaux projets après un accident, c'est des choses extrêmement compliquées. Hein, et donc, je pense qu'il y a plein de situations, d'autres situations que celle-là dans lesquelles... L'outil pourrait être utilisé.
Toutes les avancées ne s'arrêtent pas à ce handicap-là et en général servent pour tout le monde. D'ailleurs, on va y venir dans un instant avec notre prochain invité, Bachir Kheroumi, qui nous parlera justement de l'insertion professionnelle, notamment des personnes handicapées. Merci à tous les deux, Jean-Paul Champeau de Trisomie 21 France et Bernard Nkawa d'avoir été avec nous aujourd'hui. On espère qu'on vous retrouvera du coup début 2016 pour nous parler du lancement de cette plateforme, du site dédié, d'un site qui va, on l'espère tous ici, donc changer la vie des personnes avec trisomie. Jean-Paul, un dernier mot ?
Oui, simplement un mot de remerciement. L'usage terminé par les remerciements. Remerciements à la FIRA, au CCH, qui ont permis de mettre en chantier ce projet dans des conditions convenables.
Vous écoutez toujours Recherche et Partage, une émission réalisée en partenariat avec la FIRA. Et je reçois maintenant Bachir Kheroumi, chef de mission veille et conjoncture économique à la mairie de Paris et titulaire d'un doctorat en sciences de gestion sur les déficiences du management face au handicap. Il est notre grand témoin dans la dernière partie de cette émission. Ingénieur de recherche et aveugle depuis l'âge de 18 ans, il se bat pour l'intégration des personnes handicapées dans le monde du travail. Et nous allons en parler avec lui tout de suite. Nous allons voir quels sont les besoins de recherche appliqués aussi pour les personnes non-voyantes dans une deuxième partie. Mais pour commencer tout de suite, Bachir, et vous me disiez à l'instant hors antenne que vous aviez réalisé une étude comparative Angleterre, États-Unis, Italie sur ces problématiques d'exclusion des personnes handicapées du monde professionnel.
Oui, exactement. Je viens de réaliser cette étude pour comparer en fait, d'une part, les politiques de chaque pays en termes d'insertion professionnelle des personnes handicapées, que ce soit en termes de loi, de dispositifs de formation, d'éducation. Et puis, le plus important, c'est plutôt que font les entreprises quand elles intègrent les personnes handicapées. Est-ce qu'elles développent un management spécial? Est-ce qu'elles ont une approche similaire aux collaborateurs dits valides? Et donc, je me suis intéressé aux sciences de management, stratégie marketing face aux personnes handicapées, etc.
Et alors, est-ce qu'il y a du coup des grandes différences selon les pays et en comparaison avec la France peut-être?
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez en gros la France et l'Italie, et elles ont une loi contraignante qui oblige les entreprises à avoir en gros 6 à 7% de salariés handicapés dans l'entreprise, ou alors les entreprises sont pénalisées par une taxe, etc.
Est-ce que ça va un peu mieux aujourd'hui? Parce que justement, à une époque, elles préféraient payer souvent.
Donc, elles continuent à payer, et puis le recrutement, il est très très peu réalisé. Et donc, les taux, vous allez voir, les taux dans les pays où il y a une contrainte sont beaucoup plus faibles, où les pays sont beaucoup plus faibles que dans les pays où il n'y a pas de contraintes. Par exemple, vous prenez chez nous, on a un taux d'emploi d'environ 30%, en étant généreux. Hein. Vous allez en Angleterre, où il n'y a aucune contrainte, on est à 56%.
Alors comment on explique cette différence?
On explique ça parce que en Angleterre, il y a une politique qui incite les entreprises à être responsables de cette thématique. Donc, elles sont autant responsables que l'État ou que les citoyens. Et d'autre part, elles prennent les personnes handicapées comme des vrais citoyens, des vrais consommateurs, qui ont un potentiel économique, donc qui peuvent apporter une plus-value en tant que consommateur ou en tant que salarié. Par exemple, vous prenez juste un petit exemple qui illustre bien cette mentalité, parce que c'est une question de culture. Vous prenez depuis 30 ans à peu près, tous les Jeux paralympiques avaient très très peu de public. Et les Jeux de 2012, vous pouvez demander à n'importe qui, les stades étaient pleins. Pourquoi ? Parce que culturellement, les Britanniques se sentent responsables par rapport à un sujet de société comme le handicap. Donc voilà, c'est ça l'explication.
Alors si l'explication elle est culturelle, j'allais dire, on fait quoi du coup ? Est-ce qu'on se contente de ces contraintes en espérant que les gens se responsabilisent ou est-ce qu'il faudrait selon vous du coup changer ces lois ?
Non, cette mentalité elle n'est pas née par hasard, c'est qu'elle est née parce que il y a 40 ans, les écoles en Angleterre, elles ont ouvert les écoles ordinaires. Elles ont ouvert leurs portes aux enfants handicapés. Les universités ont ouvert leurs portes à des jeunes handicapés. Aujourd'hui, on a 120 000 étudiants handicapés en Grande-Bretagne. On en a 10 000 en France. Donc ça vient en fait avec des actions qui sont sur la base, c'est-à-dire l'école, la vie quotidienne, les services publics, et puis beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'explications, de pédagogie, et c'est un travail de longue haleine. Donc c'est pour ça que ça ne peut pas venir comme ça, en fait.
L'exclusion, finalement, en France et en Italie, mais des personnes handicapées du monde du travail, elle reflète simplement l'exclusion des personnes handicapées de la vie en dehors du travail, de la vie personnelle, de la vie au niveau des loisirs et de tout ce qu'on peut imaginer.
Exactement. Ça reflète, en fait, la vie dans la société ordinaire. Et donc, c'est pour ça qu'on retrouve à peu près... comme en Italie, en France, on retrouve un peu le même problème parce que là, on parle de personnes handicapées, mais vous prenez par exemple les seniors en ce moment dans les entreprises, on les renvoie. Les jeunes sont moins recrutés, on a le taux de chômage le plus important des jeunes. Donc c'est une espèce de rapport de force. C'est-à-dire la catégorie qui a le plus de rapport de force favorable en fait, s'installe plus que d'autres. Mais je voulais juste vous donner une dimension que j'ai observée aux États-Unis. Aux États-Unis, dans les États les plus avancés, on est autour 50-55 taux d'emploi. Et les entreprises qui ont vraiment mis en place des stratégies efficaces, par exemple Microsoft, a mis en place un management qu'on pourrait appeler à quatre dimensions. La première dimension, c'est la productivité. C'est je dois évaluer les personnes handicapées en termes de productivité afin de les engager pour être des salariés aussi productifs que les autres. Deuxième dimension, la communication. Je fais savoir que je recrute des personnes handicapées à l'intérieur et à l'extérieur pour changer les comportements. La troisième dimension, je considère les personnes handicapées comme des clients potentiels et j'adapte mes produits pour leur vendre. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a 51 millions de personnes handicapées. Donc c'est la première minorité. Et la quatrième dimension, c'est je tiens compte de ce que peuvent proposer en termes de créativité les personnes handicapées à partir de leur propre expérience de personnes handicapées pour injecter de l'adaptation dans mes produits ordinaires. Aujourd'hui, vous avez les produits Microsoft, toutes les personnes handicapées les utilisent, que ce soit avec une synthèse vocale ou un clavier virtuel ou avec commande vocale, etc. Voilà en fait le modèle, moi, que je défends en fait.
Est-ce que finalement, ce management, on a du mal à le transposer en France dans nos entreprises à cause de tous ces préjugés qui font les problèmes d'intégration qu'ils vont avoir potentiellement ces personnes handicapées, un manque de compétitivité, enfin tout ce qu'on peut entendre de fausses idées reçues sur les personnes handicapées, qui fait que les entreprises ne veulent pas prendre le risque et du coup ne peuvent pas de fait mettre en place ce type de management qui, vous le disiez à l'instant, part du principe que la personne handicapée, ben, c'est avant tout une personne comme une autre.
En fait, la réalité, elle est plus dure que ça. C'est les personnes handicapées ne sont que révélateurs de l'approche du management. Une entreprise en France qui a un bon management pour ses salariés ordinaires, elle n'aura pas de difficulté pour insérer des personnes handicapées. Une entreprise qui a un mauvais management pour ses salariés ordinaires, elle ne peut pas recruter de personnes handicapées. Donc en gros, en moyenne, le management est mal pratiqué en général. Et c'est pour ça en fait.
Alors on pourrait calculer le bien-être des personnes handicapées au travail, ça nous donnerait une bonne échelle du niveau de qualité du management dans l'entreprise.
Exactement.
Pour revenir à Microsoft, vous en parliez à l'instant, vous disiez productivité,
communication,
on les considère comme des clients potentiels et on adapte justement les produits et on écoute surtout leur expérience, leurs besoins. Alors là, pour dire un mot, vous êtes une personne non-voyante, pour dire un mot spécifiquement, des besoins de recherche, des besoins de produits adaptés, d'avancées technologiques qui traînent un petit peu dans ce domaine, qu'est-ce qu'on pourrait en dire ?
Alors, en tant que non-voyant, le plus gros besoin pour moi et pour, à mon avis, tous les non-voyants, c'est l'accès aux livres. Alors, bien sûr que le livre papier, on n'a pas accès. Il y a des systèmes de scanner, mais ce n'est pas très fiable. Maintenant, depuis quelques années, il y a le livre électronique. Ça, c'est un outil en fait, qu'on peut adapter très simplement, parce qu'à partir du moment où un texte il est numérisé, on peut le faire traduire par une synthèse vocale ou le sortir sur une plage braille. Malheureusement, jusqu'à maintenant, les chercheurs en informatique ne se penchent pas sur cette question. Et du coup, on n'a pas d'outils vraiment pour une personne aveugle qui veut acheter sur Amazon ou sur plateforme Apple un livre électronique. Ben, il n'a pas de quoi lire. Et je trouve ça catastrophique parce que comme la technologie, elle est, c'est un moyen de s'intégrer dans la société. Et puis l'accès aux livres, c'est le seul moyen pour un aveugle de pouvoir s'insérer dans la société, à savoir faire des études, prendre du plaisir, travailler, etc. Et donc je fais un appel aux chercheurs en informatique pour pouvoir travailler sur cette thématique et faire un logiciel universel qui permet aux aveugles, sur n'importe quelle plateforme, que ce soit PC, tablette, etc., accéder aux livres électroniques.
Soyons clairs, ce qui manque aujourd'hui, c'est des sous, des investissements là-dedans. La technologie est là, on sait très bien le faire. Donc c'est un enjeu commercial qui fait qu'on se dit, ça ne vaut pas le coup d'investir un peu plus, un peu trop.
Non, je pense que ce n'est pas des sous. Je pense que c'est préoccupation, c'est-à-dire que la recherche sur le handicap est d'abord tenue, gérée et chasse gardée des chercheurs de la médecine médicale, par exemple comme l'INSERM, etc. Les sociologues arrivent à prendre un peu dedans, mais et tout est fermé. Du coup, on parlait tout à l'heure de management. Management, c'est des chercheurs en sciences de gestion. Ben, il n'y a quasiment pas de chercheurs en sciences de gestion ou en sciences économiques sur cette thématique. Il y a très peu de chercheurs en informatique. Pourquoi ? Parce que c'est une chasse gardée. Et il faudrait peut-être convaincre les chercheurs comme l'INSERM d'ouvrir et de collaborer avec leurs collègues en économie, en informatique, en ergonomie, etc.
Voilà, alors l'appel est lancé, ça tombe bien, puisque l'émission se fait en partenariat avec la FIRA, Fondation Internationale de Recherche Appliquée sur le Handicap. Donc si certains parmi vous ont envie de se lancer, voilà ce qui ferait un beau projet à proposer à la FIRA sur les livres numériques pour les déficients visuels. Merci beaucoup, Bachir Kheroumi, d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère qu'on aura plaisir à vous réentendre prochainement sur l'antenne de Vivre FM.
Merci à vous.
Vous retrouverez donc cette émission en podcast bientôt sur le site de Vivre FM, www.vivrefm.com. Et pour plus de renseignements donc sur les projets soutenus par la FIRA ou si vous avez envie de proposer votre projet à la FIRA, eh bien c'est www.fira.org et visitez le centre ressources, véritable mine d'informations sur tout ce qui se fait sur le handicap et tout ça est en accès libre et gratuit. Bon week-end à tous à l'écoute de Vivre FM.